Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Corto Maltese, le héros d'Hugo Pratt, fait la une du magazine littéraire L'Encours. Un magazine consacré aux écrivains voyageurs. Et Corto Maltese est aussi au centre de l'exposition consacrée à Hugo Pratt, en ce moment au Musée des Confluences à Lyon jusqu'au 24 mars. Mais alors, quel livre, quelle littérature ont inspiré Hugo Pratt? On en parle ce matin avec Tristan Savin, le directeur de la rédaction du trimestriel L'Encours, et en duplex de Lyon avec l'historien et écrivain Michel Pierre, spécialiste d'Hugo Pratt et commissaire invité de l'exposition Hugo Pratt, ligne d'horizon, exposition qui est en train de battre des records d'audience, puisqu'il y a eu déjà 400 000 visiteurs.
Le réveil culturel. Vendredi. Bande dessinée.
C'est un aventurier qui préfère l'aventure, bien sûr, au confort d'une carrière, un héros, un vrai. Et un héros, un vrai, c'est d'abord un anti-héros. Et l'anti-héros, Corto Maltese, est aujourd'hui très célébré par tout le monde, puisqu'il fait la une même d'un magazine littéraire. Corto Maltese, le voyageur, le marin méditerranéen, qui a une culture anglo-saxonne. Corto Maltese, qui a été créé en 1967 par le grand dessinateur vénitien Hugo Pratt. Michel Pierre, vous êtes à Lyon et vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Puis bonjour Tristan Savin. Alors Tristan Savin, est-ce qu'on peut dire que c'est la première fois qu'un personnage de bande dessinée fait la une de votre magazine, de votre trimestriel littéraire L'Encours?
Oui, tout à fait. Et c'était normal que ça soit lui qui, pour la première fois, fasse la une de L'Encours, parce que Corto Maltese, c'est la littérature et c'est l'aventure. Et pour moi, Hugo Pratt, c'est totalement dans l'ADN de notre revue. Tout simplement parce que, à ma connaissance, on verra si Michel Pierre est d'accord avec moi, pour moi, c'est l'inventeur du roman graphique. Et c'est pas seulement de la bande dessinée. Avec Hugo Pratt, on va plus loin. Pour moi, c'est un écrivain autant qu'un dessinateur. En plus, bien sûr, qu'un grand aventurier, on en reparlera tout à l'heure.
Michel Pierre.
Oui, tout à fait. En plus, Hugo lui-même parlait de littérature dessinée. Donc on est parfaitement dans l'axe choisi par L'Encours, dans la mesure aussi où Hugo, qui était lui-même grand voyageur, avait ce talent littéraire de parler magnifiquement de pays dans lesquels il n'était jamais allé.
À la manière d'un certain Hergé,
voilà, et d'Ablaise Sandrard aussi.
Ou de plein d'autres. Donc c'est là qu'on voit vraiment les grands talent et les grands créateurs, c'est d'arriver à la fois à parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on va vérifier sur place, de ce qu'on devine et de ce qu'on invente.
Alors Corto Maltese est une sorte de d'Ulysse moderne. Enfin, quand je dis moderne, il est celui qui a continué l'aventure des explorateurs au XXe siècle, car les histoires de ce marin se déroulent plutôt au début du siècle dernier. Est-ce que Hugo Pratt avait des écrivains de prédilection? Est-ce que la littérature était très présente dans son travail d'auteur de bande dessinée, Michel Pierre?
Oui, je crois qu'elle est même fondamentale, puisque il m'en avait toujours parlé avec le premier livre qu'il ait jamais reçu de son père, qui était L'île au trésor de Stevenson, et qu'il a en quelque sorte initié à toute la littérature d'aventure anglo-saxonne, donc britannique, mais aussi américaine, avec un rôle particulier, je dirais, joué par Jack London, par exemple.
D'ailleurs, Stevenson se retrouve dans les aventures de Corto.
Oui, alors Jack London se retrouve mentionné plusieurs fois, il se retrouve même dessiné dans la jeunesse de Corto, il est même le personnage principal de cet épisode des aventures de Corto qui tourne vraiment autour du Jack London réel et à ce moment-là reporter pour la presse américaine sur le front de Mandchourie dans le cadre de la guerre russo-japonaise de 1904-1905. Donc avec ce goût qu'avait toujours Hugo du faux, du vrai, du semblant, il introduit un vrai journaliste, un vrai auteur, un vrai écrivain en dialogue avec un personnage de fiction. Donc c'est ça la littérature qui a influencé vraiment Pratt, c'est vraiment la littérature anglo-saxonne d'aventure
et de voyage
de la fin du 19e et du voyage avec aussi, alors ce qui est un autre voyage et qui touche encore plus à la littérature, c'est la vraie passion qu'il avait pour la poésie, par exemple. Il a toujours considéré que la poésie en général et la poésie irlandaise, dont il était très proche et grand lecteur, était l'art majeur finalement de toute la création. Et c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas encore assez remarqué tout ce qu'il peut y avoir comme poésie. Alors là, on toucherait un peu à la France puisque Rimbaud est mentionné plusieurs fois, mais l'art de Pratt est aussi un art de poète.
Alors, bien sûr, Rimbaud qui ouvre la première planche du coup de grâce, hein, dans Corto Maltese, bien sûr, dans les Éthiopiques. Vous avez parlé de Jack London, de Stevenson. Mais est-ce que vous avez parlé avec, puisque vous l'avez connu, hein, Michel Pierre, c'est bien de le préciser, est-ce que vous avez parlé de la bibliothèque idéale d'Hugo Pratt, des livres qu'il a lus ou qu'il l'accompagnait, parce qu'on peut dire que à un certain moment il cherchait dans les livres des réponses à ses récits graphiques, mais avant d'être dessinateur, par quelle littérature Hugo Pratt a-t-il été imprégné?
C'est toute cette littérature de jeunesse, et ensuite c'est sa bibliothèque, effectivement, sa maison, quand il était en particulier en Suisse, à partir de début des années 1980, qui s'installe près de Lausanne. Et la maison est presque construite autour d'une bibliothèque qui était entre 17 000 et 20 000 volumes, dans lequel il, je dirais pas qu'il cherchait un certain nombre de thèmes, mais il était comme Picasso, je cherche pas, je trouve. Et il trouvait dans tous les livres qu'il avait, qu'ils soient des livres de littérature au sens strict du terme, et de voyage, les atlas, des livres très rares, des recueils de revues, et il trouvait des éléments d'épisodes de récits absolument invraisemblables qu'il utilisait ou pas, qui apparaissent avec une seule phrase dans tel ou tel dialogue de personnage, mais le livre, le support imprimé était quelque chose qui était essentiel vraiment pour lui. Il a toute sa vie, il a acheté, conservé et gardé des livres.
Et que diriez-vous de l'écriture même d'Hugo Pratt, Michel Pierre ?
C'est une écriture, d'abord pour nous Français, c'est malgré tout une écriture de traduction. Il écrit essentiellement en italien, également en espagnol pour ses années argentines. Il écrit jamais directement en français, mais c'est une écriture bourrée, je dirais, de références. C'est très étonnant. On a l'impression de phrases parfois qui s'inscrivent dans les bulles ou qui décrivent une action, de choses très simples, mais c'est un palimpseste. On gratte et puis il y a toujours quelque chose d'autre, une ironie, une fantaisie, une petite référence, alors qu'on voit pas obligatoirement la première lecture, mais comme chez tous les écrivains et les grands écrivains qu'il faut relire plusieurs fois, à cet égard, il faut vraiment relire plusieurs fois Hugo Pratt.
Et une certaine poésie, je dirais, Tristan Savin.
Oui, on pourrait peut-être ajouter aussi qu'il était passionné par l'ésotérisme. Et je pense que ça imprègne cette passion pour le mystère et les livres un peu occultes imprègnent son œuvre aussi.
Oui, en plus, son ésotérisme ou parfois l'occultisme, à la fois est réel, mais à la fois, il en plaisante lui-même. Il l'utilise avec une forme d'ironie. Par exemple, à un moment, on demande à Corto Maltese s'il est franc-maçon, et Corto Maltese, en gros, répond qu'il est déjà franc-marin et ça lui suffit bien.
Mais c'est un clin d'œil aussi, on pourrait dire, à Kipling, qui compte aussi parmi les auteurs importants aux yeux d'Hugo Pratt.
Ah oui, absolument. C'est pour ça qu'on trouve, par exemple, dans Corto Maltese, la maison dorée de Samarcande, où ils partent à la recherche d'un trésor, un petit peu dans l'esprit de l'homme qui voulait être roi de Kipling. Et on sait combien Kipling était lié à la franc-maçonnerie. Et il y a un petit dessin de Pratt qui, dans un coin du dessin, on voit un symbole maçonnique. C'est un exemple de tous ces jeux qu'on retrouve dans l'œuvre de Pratt.
Alors, on a parlé de la culture anglo-saxonne, de la bibliothèque idéale d'Hugo Pratt, mais il était méditerranéen, et dans l'article que vous consacrez d'ailleurs à Hugo Pratt dans Longcourt, Michel Pierre, vous revenez, et vous avez raison de le faire, sur cette autre figure incontournable, c'est-à-dire Homère. Hugo Pratt est vénitien et méditerranéen, et Homère, vous dites qu'il revendiquait l'influence d'Homère.
Oui, il a même illustré des histoires d'Homère pour la presse enfantine, je dirais, de bande dessinée italienne.
Mais jusqu'à Corto Maltese, il vous disait, à ma manière, je raconte toujours l'Odyssée.
Oui. Oui, c'est ça, c'est une odyssée. Il est lui-même de Venise, alors c'est à la fois Homère pour l'Antiquité, et je pense que c'est un peu Marco Polo aussi pour des périodes plus récentes. L'un des éléments essentiels aussi, je pense, du talent de Pratt, c'est qu'il était vénitien. Il était vraiment d'un endroit qui a un rapport également très fort à la littérature.
Tristan Savin,
moi j'ajouterais que Maltese, c'est Malte évidemment. Malte, c'est quand même une île, comme Venise d'ailleurs, une grande partie de Venise, et c'est au cœur de la Méditerranée. Donc tout ça se tient. C'est un grand voyage méditerranéen. On est dans la culture latine. On est dans le berceau de la civilisation. Enfin, tout ça se rejoint complètement au niveau de Pratt et de la littérature de voyage qu'on vient de citer.
Oui, et puis je pense que le choix de Malte aussi vient d'une part de la profondeur historique de l'île, hein, entre les vestiges néolithiques jusqu'à la présence des ordres après les croisades, les combats contre les musulmans, etc., et la présence britannique. Cette espèce de grand porte-avions de l'impérialisme britannique installé au milieu de la Méditerranée rejoignait cette même fascination dont on parlait précédemment sur le monde anglo-saxon. Donc Malte est vraiment l'île absolue en quelque sorte pour Pratt et pour Corto Maltese et pour son héros.
Pratt voulait-il...
Et c'est un melting pot, bien sûr.
Bien sûr.
C'est un croisement de cultures.
Est-ce que Pratt, à un moment, voulait aussi tenter l'aventure littéraire, c'est-à-dire sans passer par le dessin?
Oui, il a écrit sous une forme d'écriture normale la ballade et quelques autres récits. Il aimait faire des préfaces ou des réflexions sur son œuvre. Mais il avait trouvé. On parle de littérature, mais l'autre grande influence essentielle pour comprendre Hugo Pratt, c'est le cinéma. Donc, en fait, il aurait peut-être voulu être, non, peut-être écrivain, mais également et certainement metteur en scène de cinéma. Donc, la bande dessinée est un peu la synthèse idéale pour lui entre le talent qu'il avait dans les mains depuis l'enfance du dessin et le cinéma qui le fascinait. Et il a réussi cette synthèse comme rarement des auteurs de bande dessinée ont pu arriver à ce résultat assez somptueux.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
La lune se lève sur le Rhénoque, comme sur la lagune de Venise. Son bateau flotte à l'aventure, loin des jungles d'asphalte et des machines à sous. Fils d'une putain andalouse et d'un skipper anglais, il a les yeux noirs des gitans et porte une casquette de marin. Il n'allait pas chercher fortune, mais voir ailleurs s'il y était. Les Belges fleurissent sous les fleurs d'oranger. Le rhum de Cuba est plus doré que l'or. De la Barbade à Bahia, il promène son cigario. Fixe le cangacero l'a appelé à son secours. Il a quitté Bouche Dorée avec un sourire silencieux. Quand les tueurs sont venus de New York pour lui faire la peau, il leur a brûlé la politesse à coups de revolver.
« Corto Maltese par Sylvia Fels et Jacques Guichard. C'était les années 80. Corto Maltese à la une du trimestriel littéraire Lancourt, consacré aux littératures de voyage. Et puis Corto Maltese au centre de cette exposition consacrée à Hugo Pratt, Ligne d'horizon. C'est jusqu'au 24 mars, avec un grand succès d'ailleurs, plusieurs milliers de visiteurs, 400 000 visiteurs bientôt, Michel Pierre, me dit-on.
Oui, tout à fait. À la fin, ce sera le chiffre atteint à la fin du mois, ce qui évidemment nous réjouit pour tous ceux qui ont travaillé sur cette exposition et qui,
dont en fait, vous d'ailleurs, ainsi que Patricia Zanotti, la collaboratrice de Pratt depuis 1979. Alors, pour tout ce qui est le dessin, pour ce qui est des influences de d'Hugo Pratt, on imagine qu'il y a de quoi imaginez une exposition. Mais pour tout ce qui est références littéraires, comment vous avez fait pour que toutes ces références littéraires de Pratt soient bien présentes dans cette exposition?
On les a mentionnés par un certain nombre de citations. On a aussi des grands agrandissements d'images où on voit Corto Maltese lisant. Parce que ce qui est amusant dans les albums d'Hugo, là aussi on est dans son côté un petit peu ironique ou fantaisiste, c'est que ce héros qui sort son revolver, comme il est dit dans la chanson, est aussi quelqu'un qui sort assez régulièrement des livres. On le voit en action, mais on le voit sous une véranda. On le voit même lire dans son bain. Et la bibliothèque de Corto constitue en elle-même un panorama de la littérature occidentale. Et on le voit aussi lire sur un certain nombre d'aquarelles, parce que cette exposition qui met en regard l'imaginaire de Pratt et l'imaginaire d'objets qu'on appelle d'art premier venant de toutes les civilisations du monde s'accompagne aussi de plus d'une centaine d'originaux, soit en noir et blanc, soit des aquarelles, où on voit justement Corto Maltese, par exemple, en Suisse, adossé à une meule de foin, en train de lire sans doute un vieux récit germanique en lien avec le cycle arthurien, par exemple. Et on a voulu donner ce côté littéraire par ce biais des agrandissements et des originaux.
Sinon, l'exposition, c'est plus une invitation au voyage, ou du moins à partager tous les voyages réels, fictifs, d'Hugo Pratt.
Oui, parce que Hugo donnait une forme de crédibilité à ses récits en mettant en arrière-plan tel ou tel objet provenant d'Océanie ou issu d'Afrique, un bouclier Zoulou, une tête réduite Jivaro, par exemple. Donc tous ces éléments qui appartiennent aussi à la littérature d'aventure et que nous montrons en exemple dans des vitrines, puisque le Musée des Confluences est quand même un musée des cultures et des civilisations, qui a ses propres collections d'objets venant du monde entier et que l'on a utilisé à foison, en fouillant y compris dans les réserves et en trouvant des objets qui faisaient écho à l'œuvre de Pratt. Et c'est vrai que quand vous faites des grands agrandissements, et le talent graphique de Pratt s'y prête bien, vous avez un agrandissement de vignette de 3 mètres sur 2 et à côté vous avez un petit objet, ou un objet petit enfin, par la taille, hein, mais important par ce qu'il peut dire venant des collections du musée, vous avez un vrai dialogue qui s'installe entre l'imaginaire de Pratt et l'imaginaire que nous porte un objet venant de ces civilisations du monde entier.
Alors que Hugo Pratt, comme Hergé, ont raconté le XXe siècle sans trop voyager. On sait que le dessinateur de Corto Maltese a suivi son père en Éthiopie, qu'il a vécu en Argentine, mais après, après on ne sait pas. Hein. D'ailleurs, vous-même, Michel Pierre, vous posez la question, combien de visas a eu Hugo Pratt, parce que ensuite, comme tout grand romancier, il a su brouiller les pistes entre légende et réalité, entre ce qu'il a vraiment vécu et ce qu'il a lu quelque part, ou ce qu'il a imaginé quelque part. Vous l'avez connu, Michel Pierre, est-ce qu'on peut dire que c'est l'histoire d'un grand voyageur qui a vraiment voyagé, ou c'est un voyageur à la manière d'Hergé? Il a tout imaginé, c'était même mieux que d'y aller.
Non, il a vraiment été un grand voyageur. Il a vraiment sillonné, par exemple, l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, les Antilles. Il s'est rendu, par exemple, deux fois à l'île de Pâques pour parler de l'Océanie. Il a fait, mais c'est vrai que c'est sur la fin de sa vie, un grand séjour dans tout le Pacifique. Il connaissait évidemment bien, comme vous le disiez, l'Éthiopie du fait d'y avoir accompagné son père dans l'adolescence. Il connaissait le Kenya. Il connaissait plutôt, là aussi, l'Afrique anglophone. Par contre, il n'a pas voyagé en Asie, par exemple. L'Asie est très présente dans certains de ses récits, mais il ne s'y est pas rendu. Donc, il a beaucoup plus voyagé qu'Hergé, incontestablement. C'était un voyageur simple, hein. C'est quelqu'un qui marchait bien, qui s'encombrait pas de grands bagages.
Mais marcheur fois, solide, endurant, silencieux, voilà. C'est comme ça que vous le décrivez.
Oui, c'est vrai, hein, là je peux vraiment témoigner, mais en même temps c'est quelqu'un qui détestait pas non plus s'arrêter dans des palaces, mais ni l'une ou l'autre des conditions n'était en quelque sorte fondamentale. Par contre, il lui serait pas venu à l'idée de faire comme Jack London, hein, de partir sur le Snark ou de partir sur un bateau et de faire le tour du monde. C'était pas trop son univers du voyage, mais il a quand même vraiment été un voyageur. Un voyageur de la réalité, un voyageur du livre, un voyageur de l'imaginaire.
Avec l'envie de rendre compte de ce qui se passe dans le monde ?
Plus ou moins, avec un certain nombre de valeurs ou de considérations qu'il mettait dans la vie de Corto Maltese et qu'il reflétait, y compris avec d'autres héros, parce que nous parlions de l'exposition de Confluence, c'est pas seulement Corto Maltese, c'est l'ensemble de l'œuvre d'Hugo Pratt. Mais il avait aussi, par exemple, cette chose assez curieuse, c'est qu'il s'inspirait pas obligatoirement d'un lieu pour raconter une histoire, mais il allait ensuite vérifier si son imaginaire avait fonctionné par rapport à ce qu'il avait commencé à raconter.
Donc avant publication, quand même.
Presque, oui, ou pas obligatoirement. Il lui est arrivé d'aller dans des lieux après les avoir racontés, ou parfois il va vraiment, je pense à l'album Tango, quand il va rechercher les traces des banditos américains, hein, qui s'étaient rendus sur place, Kitchen Dance, etc. Et il va vérifier des choses qu'il va ensuite développer comme une hypothèse dans son album Tango.
Alors par exemple, vous l'avez dit, Michel Pierre, Hugo Pratt ne s'est jamais rendu en Asie, Corto Maltese si, mais alors comment il a su restituer les espaces, les histoires de ce continent ? Est-ce qu'il avait des écrivains de prédilection, des historiens, des géographes, des explorateurs qui étaient très très proches de lui, ou leur écrit était considéré comme des vrais documents de travail, ou il avait cette manière aussi à lui d'imaginer ce continent?
Je pense qu'il y a d'abord le vrai talent du créateur qui parvient à restituer des vérités ou des décors même quand ils n'y sont pas. Et il avait quand même une réelle culture d'articles de journaux, de magazines, de catalogues d'expositions. Quand il représente, par exemple, en Sibérie, un chaman sibérien, il a vu des reportages, soit publiés, soit des documentaires, et il ne se trompe ni dans le costume du chaman, ni dans le rythme du tambour de la danse.
Hugo Pratt, Ligne d'horizon, c'est au musée des Confluences à Lyon. Et puis, votre article, Hugo Pratt, la fantaisie du voyage, Michel Pierre, c'est dans le dernier numéro de L'Encours. Il est entouré de quelques contemporains, Hugo Pratt,
serait sans savoir. Dans ce numéro de L'Encours, oui, ouais. Il est bien entouré. Il est accompagné notamment de Léla Slimani, qui lui aurait beaucoup plu, je pense, qui nous a fait l'honneur d'un grand récit sur son voyage au Brésil. C'est tout à fait d'actualité. Et nous avons également un reportage très gonzo de Caril Ferré en Colombie sur les traces des FARC et de Pablo Escobar. Entre autres, parce qu'on a également un très grand entretien avec Jean-Paul Kaufmann qui nous raconte ses merveilleux souvenirs de voyageurs et de journalistes.
Comment vous est venue l'idée de mettre Hugo Pratt est donc, à travers Corto Maltese, en une de Lancourt.
Ben, tout simplement parce qu'on a un grand dossier sur les smart cities, les villes du futur, et on s'est aperçu que c'était très difficile à illustrer en photo, et on s'est dit, on va essayer de créer une image qui puisse recréer l'ambiance cosmopolite des villes, et très naturellement, on s'est aperçu que rien n'illustrerait mieux ce nouveau numéro de Lancourt qu'un très beau dessin d'Hugo Pratt.
Voilà, mais par ailleurs, vous êtes un lecteur d'Hugo Pratt, vous avez lu son...
Ah ben j'adore, c'est un de mes héros. Je suis même allé sur ses traces en Éthiopie, figurez-vous.
Ah bah très bien. Est-ce que vous continuez à lire les nouvelles aventures de Corto Maltese? Parce que, on le sait, ça a été repris par Juan Diaz Canales et Robin Pellegero. Vous êtes plutôt du genre lire Hugo Pratt seulement.
En fait, j'ai peur. C'est peut-être très bien, mais je n'ai pas voulu l'avoir dans les mains. Je sais pas pourquoi. Je suis peut-être un peu trop attaché à Hugo Pratt lui-même.
Voilà. Non, je confirme, c'est plutôt très bien fait.
Merci beaucoup Michel Pierre. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission, ou mieux, puisque vous prenez de prendre disposition pour la nouvelle année, vous abonner au podcast du Réveil Culturel. Émission réalisée ce matin par Rafik Zanine, avec à la technique Delphine Baudet. Et c'est bien sûr Corinne Amar qui coordonne cette émission, à retrouver sur franceculture.fr. Bonne matinée.